à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Monsieur Bouni, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bouni, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'éducation. Parler d'éducation, mais je voudrais d'abord que les gens comprennent qu'est-ce qui m'amène à parler d'éducation avec vous. Vous êtes ingénieur aéronautique, vous avez fait toute votre carrière à Toulouse, chez ATR et chez Airbus. Vous avez eu d'éminentes responsabilités. Et il y a quelques années, vous me disiez que vous aviez été interpellé, entre guillemets, par un reportage de deux personnalités bien connues de la France, qui sont Harry Razelmak, le journaliste de TF1, et un PDG qui s'appelle Monsieur...
Éric Mestrallet.
Éric Mestrallet, à ne pas confondre avec le patron de Suez,
oui, tout à fait.
Mais qui est chef d'entreprise à Paris. Or, ces deux personnes ont monté, il y a une dizaine d'années, une association qui s'appelle Espérance Banlieue, et qui est là pour aider les enfants des milieux défavorisés à réussir leur parcours scolaire. L'idée derrière ça, au fond, c'est une idée bourdieusienne. Enfin, disons que c'est Bourdieu a mis en évidence, même si je n'aime pas nécessairement tout ce qu'il a prôné ou dit, mais a mis en évidence le fait qu'il y avait une sorte d'injustice, entre guillemets, sociale qui est liée au capital culturel. Et c'est vrai qu'il y a certains enfants qui naissent dans des milieux où il y a un fort capital culturel, et l'expérience montre qu'en général, ils ont beaucoup plus de chances de réussir leur parcours académique, et d'autres qui sont en déficit de capital culturel du fait des circonstances du milieu dans lequel ils sont, de leur parcours personnel, et donc pour lesquels les études sont plus difficiles. Donc l'objet d'Espérance Banlieue, c'est ça. Et donc vous avez finalement, avec quelques amis, monté à Toulouse il y a 6 ans, une antenne d'Espérance Banlieue. Donc je vous donne la parole, parlez-nous de la création de cette école primaire à Toulouse par vous et avec un certain nombre de copains.
Merci de nous donner la parole. Oui, en effet, Éric Mestrallet, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, constatant la difficulté qu'il avait de recruter des jeunes compétents avec un savoir-être également, s'est pris de passion pour l'éducation et il a commencé à monter tout un projet qu'il a formalisé il y a plus de 10 ans dans un livre, Espérance Banlieue, qu'il a fait préfacer par Harry Razelmak. Et en effet, Harry Razelmak, à cette occasion, convaincu de l'intérêt de ce projet original, a réalisé quelques missions, puis ensuite ça a été relayé dans différents médias, sur diverses chaînes ou dans différents documents. J'ai eu pour ma part, moi, l'occasion de rencontrer un jeune cadre qui travaillait totalement à temps complet il y a 7 ans, Arnaud Desbazeilles, qui s'était passionné pour ce projet dont il avait récemment entendu parler. Donc, nous avons décidé de monter une association fin 2016 à Toulouse, association 1901, dans le but de créer une école appartenant au réseau Espérance Banlieue. École dont la philosophie est effectivement de permettre à des enfants des quartiers défavorisés, quartiers prioritaires, de toute origine, non seulement d'avoir un enseignement de qualité, d'avoir un accompagnement éducatif et recevoir le maximum d'outils pour leur permettre une intégration dans la société française. Ce sont les trois grands piliers de l'école. Et maintenant, il y a 17 écoles en France, plus de 1000 élèves. La première école était à Montfermeil, puis ensuite Marseille, puis après Roubaix. Il y en a eu donc maintenant un peu partout en France, avec des résultats tout à fait étonnants et qui sont encourageants pour les élèves et pour leurs parents.
Alors, Monsieur Bouny, à Toulouse, 6 ans après, donc, vous montez une école, vous l'appelez comment ?
C'est une bonne question. Chaque école a un nom particulier, propre à leur géographie, par rapport à leur ancrage local. Alors à Toulouse, on l'a appelé le cours Les Constellations.
Le cours Les Constellations, venant de quelqu'un qui avait fait sa carrière dans l'aéronautique,
C'est encore plus large que ça, parce que la découverte du monde s'est bien faite à travers l'observation des étoiles. C'est comme ça que les navigateurs ont pu faire le tour du monde, découvrir des cultures différentes.
Donc ce n'est qu'une référence à Airbus, c'est symboliquement...
Symboliquement, c'est ça.
C'est la découverte.
Mais après, ça a été aussi l'aéropostale, qui va être notre grand sujet support pédagogique de cette année. Bien sûr, il y avait des goniomètres, il y avait des boussoles, mais nos grands pilotes de l'aéropostale, ils travaillaient avec les constellations. Et puis évidemment, les avions, les satellites, les lanceurs à Toulouse, voilà. Donc les constellations, c'est la raison du nom de cette école.
Il y a tout un faisceau
de projets vis-à-vis de ses enfants.
Tout un faisceau de raisons. Donc là, concrètement à Toulouse, d'abord, vous êtes où ? Précisément.
Alors, après un an et demi de recherche compliquée quand on n'a pas d'argent pour trouver des lieux, nous sommes dans le quartier de la Cartoucherie, dans une zone qui est juste après le tram,
à côté du Zénith, quartier bien connu maintenant à Toulouse.
Absolument, un quartier qui est en pleine révolution et qui va transformer la ville. Où nous avons pu trouver un agrément avec l'armée qui occupe ce terrain appartenant à la métropole.
Encore une partie, parce qu'ils en ont beaucoup rétrocédé.
Voilà.
Oui,
donc,
c'est
encore
magnifique.
Tout un immense terrain ceinturé de hauts murs et de fils barbelés. Peut-être pas très encourageant, mais c'est l'endroit...
Et où il y avait déjà de la formation, puisque moi-même j'ai été intervenu à une époque là.
Oui, c'est un lieu que l'armée met à disposition d'un certain nombre d'organismes, banque alimentaire, chevalier de l'ordre de Malte, pour des questions logistiques.
Alors,
quand on a pu solliciter pour louer des locaux, on a été bien accueillis.
Donc là, vous louez des locaux et vous avez combien d'élèves ?
Alors,
aujourd'hui,
première rentrée, c'était il y a 5 ans. 5 élèves, puis 11 élèves, puis 13, puis 15, puis 23. Et cette année, à la rentrée, 52 élèves.
Oui, donc ça commence à se connaître.
Ça commence à bien progresser, à se faire connaître. Nous avons maintenant un salarié, un directeur à temps complet, 4 professeurs, dont 2 sont en disponibilité de l'éducation nationale. Donc ce sont des gens complètement formés à qui nous assurons une formation continue sur les méthodes que nous voulons préconiser pour toutes les écoles. Syllabique, méthode de Singapour pour les mathématiques. Donc,
Oui, on va revenir à cet aspect pédagogique, mais d'abord, précisons bien l'école. Donc, je résume, vous avez aujourd'hui 52 élèves.
Oui.
Donc, ça commence à faire quelque chose pour 5 ans d'existence, finalement. La première promotion, c'était il y a 5 ans. Vous couvrez quelle classe ?
Alors, tout le primaire. Nous avons les trois niveaux du primaire, CP, les deux CE et les deux CM, CM1 et CM2. Tous les niveaux sont couverts.
Et d'un point de vue géographique, vous recrutez, il n'y a pas de carte scolaire là, on n'est pas...
Non, on privilégie effectivement les enfants qui sont un peu notre cible, à savoir les quartiers défavorisés, pour que les enfants aient à travers notre école l'opportunité de trouver une première société dans laquelle ils vont pouvoir avoir la chance d'avoir un enseignement, un encadrement qui leur permettra non seulement de savoir lire, écrire, compter, mais aussi se trouver bien dans la société française.
Et donc, ces enfants qui viennent des quartiers défavorisés de Toulouse, bon...
C'est l'Ouest toulousain.
L'Ouest toulousain, bien connu, avec plusieurs quartiers. Là, pour se faire connaître dans ces quartiers, c'est pas évident. Comment vous y êtes pris ?
Alors, au début, on a fait la tournée des marchés. Et on a eu la chance d'avoir 3-4 familles qui, alors que nous n'avions pas encore de locaux, ont dit banco, on part sur ce projet. Ces 3 ou 4 familles, maintenant leurs enfants ont grandi et certaines vont nous quitter l'année prochaine, ça va nous faire un pincement au cœur. Et petit à petit, le bouche à oreille s'est fait. On a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, pour se faire connaître. On a une petite newsletter qu'on fait circuler.
Il y a un site internet aussi, je le dis, qui est bien fait. Donc,
oui.
Pour trouver le site internet, on tape Espérance banlieue Toulouse et en général, on y arrive.
Absolument, tout à fait. Et donc, petit à petit, le bouche à oreille se fait, la satisfaction des parents, les voisins, des parents qui nous avaient quittés il y a 2 ans pour partir plus loin à Tournefeuille, par exemple, sont revenus en cours d'année parce qu'ils trouvaient que, somme toute, leur enfant ne s'intégrait pas dans l'école où ils étaient. Donc, ils ont préféré refaire des kilomètres pour revenir à notre école. Ça montre qu'il y a un attachement. Pourquoi il y a cet attachement ? Eh bien, on a la chance d'avoir, dans notre projet, des tout petits effectifs. C'est moins de 15 élèves par classe. Une école complète, ça sera moins de 150 élèves. Donc, ça ne sera jamais des gros établissements. L'idée, c'est
moins par classe, moins de 20.
Moins de 15 élèves par classe.
Moins de 15 élèves par classe.
Donc,
et ça, c'est une règle générale toute la France.
Absolument. Absolument.
Donc, c'est une pédagogie qui est quand même très différente. Et donc, j'en viens aussi à un point qui est important que nos auditeurs comprennent, c'est que vous n'êtes pas sous contrat, vous êtes en enseignement totalement libre.
Absolument. Ce sont des écoles libres, hors contrat.
Donc, qui s'autofinancent.
Et à confessionnel,
c'est important aussi de le dire, ce ne sont pas des écoles à caractère catholique ou chrétien ou protestant.
Ou musulmane ou quoi
musulmane,
que ce soit.
Ou quoi non, que ce soit. Donc, vous avez des gens de tous horizons.
Absolument,
et il n'y a aucun signe religieux, ni dans les classes, ni à l'extérieur.
Non, on veille à respecter la culture... Pardon, l'origine de chacun de nos élèves.
Et donc, il y a un vrai mélange social.
Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que comme on privilégie des familles de ces quartiers, ce n'est pas dans ces quartiers-là qu'on a un grand mélange social.
Oui.
On a quand même eu des origines qui sont... toutes les familles sont aujourd'hui françaises, de première, deuxième, troisième génération, mais on ne leur demande pas d'appartenir à une religion quelconque. Pour nous, l'intérêt que nous portons aux enfants, et nous travaillons avec les familles pour le bien des enfants. Aujourd'hui, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous porte.
Et alors, est-ce que vous avez des inquiétudes sur, ensuite, le fait de les intégrer quand ils vont rentrer dans les collèges, puisque vous les amenez jusqu'au seuil du collège?
Voilà. Alors, les écoles Espérance banlieue, le projet complet va jusqu'au collège, jusqu'en troisième, pour l'instant, nous n'avons pas encore ouvert un collège, mais dès que la taille aura bien progressé, dès que nous aurons complété toutes les classes du primaire, nous avons bien l'intention d'ouvrir la sixième et d'aller jusqu'en troisième. Alors sur votre question, qui est une vraiment bonne question, je peux parler de deux choses. On a déjà des enfants qui sont sortis du CM2 et qui ont intégré des écoles publiques et des écoles privées. Aujourd'hui, leur intégration est tout à fait satisfaisante. Dans les autres écoles du réseau, les enfants qui, au terme du brevet des collèges, après le troisième, ils vont intégrer un lycée professionnel ou un enseignement général. Là aussi, généralement, sauf exception particulière liée à des individualités, l'intégration se fait bien. C'est vrai que notre souci, c'est de ne pas faire non plus des enfants surprotégés. Il faut qu'ils puissent s'intégrer dans un cadre qui sera peut-être moins bienveillant que celui que nous nous attachons à leur apporter.
Oui, parce que dans le public, des classes de moins de, enfin, au maximum 15 élèves, ça ne se rencontre pas souvent.
Ah, le ministre Jean-Michel Blanquer, si j'ose dire, s'était probablement un peu inspiré de l'expérience Espérance banlieue qu'il connaissait très bien. Et quand il a décidé que dans les quartiers prioritaires, il allait dédoubler les classes de primaire,
oui.
Devinez d'où ça vient.
C'était l'idée.
Ça venait des expériences Espérance banlieue qui ont montré qu'effectivement, c'était par ces moyens-là que l'on pouvait porter plus d'attention à des enfants qui en avaient besoin.
Et alors venons-en maintenant aux questions de pédagogie. Vous êtes donc libre, en quelque sorte, de faire, au fond, les méthodes que vous souhaitez. Hein, et vous n'êtes pas les seuls en France, et l'enseignement libre, c'est-à-dire qui n'est pas sous contrat, est tenu avec des inspections de respecter un certain nombre d'orientations ministérielles. Il y a beaucoup d'expérimentations. Vous, sur le plan pédagogique, quelle est votre façon d'aborder l'enseignement?
Alors, ça n'est pas propre au cours des constellations. Nous appliquons une approche qui est liée au projet Espérance banlieue. Et ce projet, il s'appuie sur des méthodes connues, reconnues. Pour le français, on utilise effectivement la méthode syllabique qui, aujourd'hui, a fait ses preuves et pour laquelle les neurosciences actuellement montrent que c'est une méthode tout à fait appropriée.
Le B.A.B.A.
C'est le B.A.B.A., absolument. Oui. Tant décrié, mais sur lequel on est en train de revenir partout. Méthode de Singapour pour les mathématiques. Là encore, pourquoi? Parce que apprendre par le jeu une matière comme les mathématiques qui peut paraître pour certains rebutante, a montré à Singapour et dans son développement dans le monde entier que c'est une méthode tout à fait appropriée. Ça veut dire que nos professeurs doivent être formés à ces méthodes. Et régulièrement, nous allons les envoyer lors de leurs vacances en formation en région parisienne ou en visio sur ces méthodes pour être au point et ils ont une formation continue. Alors, on est une école libre, mais on est tenu par un programme.
Un programme,
nous
oui, ça, oui.
Nous appliquons exactement celui de l'éducation nationale.
Alors, libre sur le plan des méthodes, mais le programme ensuite, évidemment,
voilà,
il faut quand même ensuite passer les examens de l'éducation nationale. Oui.
D'ailleurs, nous avons été plusieurs fois inspectés. Au mois de décembre dernier, nous avons eu une inspection avec 5 inspecteurs qui sont venus à l'école pour vérifier que nous appliquions les programmes, que nous étions qualifiés et que nous respections les procédures requises par l'éducation nationale.
Et quelle a été la suite de cette inspection ?
Il y a toujours des points à corriger. Nous attendons le rapport. Pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu. Il y aura certainement des points à corriger. Comme toujours, dans chaque audit, on a toujours des points à améliorer.
D'amélioration, oui.
Et donc, on attend.
Enfin, ils n'ont pas menacé de fermer l'école, etc. Non.
Ah non, enfin, du moins, il n'y a pas eu la moindre question sur ce sujet-là.
Bon.
Non.
Et il y a une question aussi, donc on va revenir sur la pédagogie, mais il y a une question qu'on a oublié de préciser, mais qui a quand même son importance. C'est quasiment gratuit. Je dis bien quasiment parce que je crois que vous faites quand même symboliquement payer une petite cotisation à chacun.
Alors là encore, dans le projet qu'avait lancé Éric Mestrallet et qui est conforté maintenant avec 10 ans d'expérience, le fait que les parents contribuent tous les mois est un élément essentiel. Le fait de payer un peu la scolarité, ils ont des droits pour venir nous demander des comptes. Donc c'était un peu l'idée fondatrice. Alors bien entendu, comme on privilégiait ces familles et ces quartiers
défavorisés sur le plan économique,
on ne peut pas leur demander des sommes importantes. Donc aujourd'hui, nous avons des barèmes un peu sur la base de celui des allocations familiales, si vous voulez. Et effectivement, les scolarités vont de 50 à 70 euros par mois sur 10 mois. Et suivant le nombre d'enfants, il y a ensuite un dégrèvement petit à petit pour le deuxième ou le troisième enfant.
D'accord.
Donc, ils contribuent. Ça fait partie du modèle. Par contre, bien entendu, ça n'est pas eux qui sont la source prioritaire de nos revenus.
Oui, le financement.
L'objectif, à peu près, nous essayons d'avoir 10% couverts par les familles. Ensuite, ça veut dire que 90% des frais de fonctionnement doivent être assurés par l'association et par sa tutelle parisienne. Donc là, il faut faire appel à la générosité de fondations, d'entreprises et de donateurs individuels.
L'association est reconnue d'utilité publique ?
Absolument.
Donc il y a un dégrèvement de 60%
absolument.
Sur tous les dons qui sont faits.
Voilà.
Et donc 90%.
66% pour les impôts sur le revenu, 60% sur les impôts sur les sociétés et 75% pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc des gens qui sont assujettis, passant par la Fondation de France pour l'école toulousaine, vont voir 75% de leurs dons défrayés de leur impôt.
De leur impôt sur le patrimoine immobilier. Le budget, à peu près, on peut le dire, donc augmente chaque année, évidemment, puisqu'il y a de plus en plus d'élèves. Mais
bien sûr. Le budget de fonctionnement doit être actuellement aux alentours, pour notre structure toulousaine, à 250 000 euros. Ouais. Ça veut dire que, en gros, il faut être capable de lever tous les mois 20-25 000 euros.
Ouais.
Donc c'est un très beau challenge. On a dit 90% vient en dehors des familles. Donc on a une partie qui vient de notre fondation mère, qui, elle, approche les très grosses fondations nationales, comme Bettencourt-Schouler ou d'autres. Et puis après, il y a d'autres mouvements. Au mois de décembre, il y a eu une nuit du bien commun à Paris, dévolue à toutes les écoles Espérance banlieue, et une nuit du bien commun au Théâtre du Capitole, où nous avons récolté plus de 35 000 euros.
Donc si dans nos auditeurs, certains veulent accompagner cette extraordinaire expérience, parce que comme je le disais en commençant, l'injustice sociale, c'est pas nécessairement une question de revenus, c'est une question de capital culturel. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent de ce point de vue-là dans des milieux défavorisés, et c'est formidable qu'il y ait des gens comme vous qui aient pris conscience de ça et qui font tout pour développer. Donc si certains veulent participer à cette aventure formidable, comment ils font? Ils vont sur le site?
C'est simple, le site Espérance Banlieue, vous revenez sur les onglets lié à l'école qui vous intéresse. Donc ici, c'est plutôt le cours Les Constellations à Toulouse. Et là, tout est expliqué, aussi bien pour être adhérent que pour être donateur mensuel ou sur des dons uniques. Ou si vous avez l'opportunité d'être touché par la fortune immobilière, eh bien, là encore, c'est expliqué sur le site. C'est très simple.
Bien, Monsieur Bouny, le temps que nous avons s'est écoulé beaucoup trop vite. C'est une expérience formidable et on vous remercie tous d'avoir monté ça à Toulouse avec quelques personnes de bonne volonté. Je ne saurais trop engager nos auditeurs à aller sur votre site où les choses sont remarquablement bien expliquées.
Et à l'école, nos portes vous sont grandes ouvertes.
Tous les jours ?
Tous les jours.
Ah,
tous les
donc
jours.
Alors, à côté du Zénith.
Voilà.
Facile à repérer à Toulouse.
Voilà, ça sera avec plaisir que nous vous montrerons la joie des enfants et de leurs parents.
Merci Jean-Louis Bouny pour cette interview et bonne continuation.
Un grand merci à vous.